Livre 4, deuxième partie. Nous arrivâmes heureusement à Fribourg. Sur la fin du voyage, les empressements de Mademoiselle Merceret diminuèrent un peu. Après notre arrivée, elle ne me marqua plus que de la froideur, et son père, qui ne nageait pas dans l'opulence, ne me fit pas non plus un bien grand accueil. J'allai loger au cabaret. Je les fus voir le lendemain, ils m'offrirent à dîner, je l'acceptai. Nous nous séparâmes sans pleurs. Je retournai le soir à ma gargote, et je repartis le surlendemain de mon arrivée, sans trop savoir où j'avais dessein d'aller. Voilà encore une circonstance de ma vie où la Providence m'offrait précisément ce qu'il me fallait pour couler des jours heureux. La Merceret était une très bonne fille, point brillante, point belle, mais point laide non plus. Peu vive, fort raisonnable, à quelques petites humeurs près, qui se passait à pleurer et qui n'avait jamais de suite orageuse. Elle avait un vrai goût pour moi. J'aurais pu l'épouser sans peine et suivre le métier de son père. Mon goût pour la musique me l'aurait fait aimer. Je me serais établie à Fribourg, petite ville peu jolie mais peuplée de bonnes gens. J'aurais perdu sans doute de grands plaisirs, mais j'aurais vécu en paix jusqu'à ma dernière heure. Et je dois savoir mieux que personne qu'il n'y avait pas à balancer sur ce marché. Je revins, non pas à Nyon, mais à Lausanne. Je voulais me rassasier de la vue de ce beau lac qu'on voit là dans sa plus grande étendue. La plupart de mes secrets motifs déterminants n'ont pas été plus solides. Des vues éloignées ont rarement assez de force pour me faire agir. L'incertitude de l'avenir m'a toujours fait regarder les projets de longue exécution comme des leurres de dupes. Je me livre à l'espoir comme un autre, pourvu qu'il ne me coûte rien à nourrir. Mais s'il faut prendre longtemps de la peine, je n'en suis plus. Le moindre petit plaisir qui s'offre à ma portée me tente plus que les joies du paradis. J'accepte pourtant le plaisir que la peine doit suivre. Celui-là ne me tente pas, parce que je n'aime que des jouissances pures et que jamais on n'en a de telles quand on sait qu'on s'apprête à un repentir. J'avais grand besoin d'arriver en quelque lieu que ce fût, et le plus proche était le mieux. Car m'étant égaré dans ma route, je me trouvais le soir à Moudon, où je dépensais le peu qui me restait. Or, dix kreutzer qui partirent le lendemain à la dîner. Et arrivé le soir à un petit village auprès de Lausanne, j'y entrai dans un cabaret sans un sou pour payer ma couchée et sans savoir que devenir. J'avais grand faim. Je fis bonne contenance et je demandai à souper comme si j'eusse eu de quoi bien payer. J'allai me coucher sans songer à rien, je dormis tranquillement. Et après avoir déjeuné le matin et compté avec l'hôte, je voulus pour 7 battes, à quoi monter ma dépense, lui laisser ma veste en gage. Ce brave homme la refusa et me dit que grâce au ciel, il n'avait jamais dépouillé personne, qu'il ne voulait pas commencer pour 7 battes, que je gardasse ma veste et que je le paierais quand je pourrais. Je fus touché de sa bonté, mais moins que je ne devais l'être et que je ne l'ai été depuis en y repensant. Je ne tardai guère à lui renvoyer son argent avec des remerciements par un homme sûr. Mais 15 ans après, repassant par Lausanne à mon retour d'Italie, j'eus un vrai regret d'avoir oublié le nom du cabaret et de l'hôte. Je l'aurais été voir. Je me serais fait un vrai plaisir de lui rappeler sa bonne œuvre et de lui prouver qu'elle n'avait pas été mal placée. Des services plus importants sans doute, mais rendus avec plus d'ostentation, ne m'ont pas paru si dignes de reconnaissance que l'humanité simple et sans éclat de cet honnête homme. En approchant de Lausanne, je rêvais à la détresse où je me trouvais, au moyen de m'en tirer sans aller montrer ma misère à ma belle-mère. Et je me comparais, dans ce pèlerinage pédestre, à mon ami Venture arrivant à Annecy. Je m'échauffais si bien de cette idée que, sans songer que je n'avais ni sa gentillesse ni ses talents, je me mis en tête de faire à Lausanne le petit Venture, d'enseigner la musique, que je ne savais pas, et de me dire de Paris, où je n'avais jamais été. En conséquence de ce beau projet, comme il n'y avait point là de maîtrise où je pusse vicarier, et que d'ailleurs je n'avais garde d'aller me fourrer parmi les gens de l'art, je commençai par m'informer d'une petite auberge où l'on put être assez bien et à bon marché. On m'enseigna un nommé Perrotet qui tenait des pensionnaires. Ce Perrotet se trouva être le meilleur homme du monde et me reçut fort bien. Je lui contai mes petits mensonges, comme je les avais arrangés. Il me promit de parler de moi et de tâcher de me procurer des écoliers. Il me dit qu'il ne me demanderait de l'argent que quand j'en aurais gagné. Sa pension était de 5 écus blancs, ce qui était peu pour la chose, mais beaucoup pour moi. Il me conseilla de ne me mettre d'abord qu'à la demi-pension, qui consistait pour le dîner en une bonne soupe et rien de plus, mais bien à souper le soir. J'y consentis. Ce pauvre Perrotet me fit toutes ses avances du meilleur cœur du monde et n'épargnait rien pour m'être utile. Pourquoi faut-il qu'ayant trouvé tant de bonnes gens dans ma jeunesse, j'en trouve si peu dans un âge avancé? Leur race est-elle épuisée? Non, mais l'ordre où j'ai besoin de les chercher aujourd'hui n'est plus le même où je les trouvais alors. Parmi le peuple, où les grandes passions ne parlent que par intervalles, les sentiments de la nature se font plus souvent entendre. Dans les états plus élevés, ils sont étouffés absolument, et sous le masque du sentiment, il n'y a jamais que l'intérêt ou la vanité qui parle. J'écrivis de Lausanne à mon père, qui m'envoya mon paquet, et me marqua d'excellentes choses dont j'aurais dû mieux profiter. J'ai déjà noté des moments de délire inconcevable où je n'étais plus moi-même. En voici encore un, des plus marqués. Pour comprendre à quel point la tête me tournait alors, à quel point je m'étais, pour ainsi dire, venturisé, il ne faut que voir combien tout à la fois j'accumulais d'extravagances. Me voilà maître à chanter, sans savoir déchiffrer un air. Car quand les 6 mois que j'avais passés avec le maître m'auraient profité, jamais il n'aurait pu suffire. Mais outre cela, j'apprenais d'un maître, c'en était assez pour apprendre mal. Parisien de Genève et catholique en pays protestant, je crus devoir changer mon nom, ainsi que ma religion et ma patrie. Je m'approchais toujours de mon grand modèle autant qu'il m'était possible. Il s'était appelé Venture de Villeneuve, moi je fis l'anagramme du nom de Rousseau dans celui de Vaussort, et je m'appelais Vaussort de Villeneuve. Venture savait la composition, quoiqu'il n'en eût rien dit, moi, sans la savoir, je m'en vantais à tout le monde. Et sans pouvoir noter le moindre vaudeville, je me donnais pour compositeur. Ce n'est pas tout. Ayant été présenté à monsieur de Trétorens, professeur en droit qui aimait la musique et faisait des concerts chez lui, je voulus lui donner un échantillon de mon talent, et je me mis à composer une pièce pour son concert. Aussi effrontément que si j'avais su comment m'y prendre. J'eus la constance de travailler pendant 15 jours à ce bel ouvrage, de le mettre au net, d'en tirer les parties et de les distribuer avec autant d'assurance que si c'eût été un chef-d'œuvre d'harmonie. Enfin, ce qu'on aura peine à croire, et qui est très vrai, pour couronner dignement cette sublime production, je mis à la fin un joli menuet qui courait les rues et que tout le monde se rappelle peut-être encore, sur ces paroles jadis si connues. Quel caprice, quelle injustice! Quoi, ta Clarisse trahirait tes feux? Etc. Venture m'avait appris cet air, avec la basse sur d'autres paroles infâmes, à l'aide desquelles je l'avais retenu. Je mis donc, à la fin de ma composition, ce menuet et sa basse, en supprimant les paroles, et je le donnai pour être de moi, tout aussi résolument que si j'avais parlé à des habitants de la Lune. On s'assemble pour exécuter ma pièce. J'explique à chacun le genre du mouvement, le goût de l'exécution, les renvois des parties. J'étais fort affairé. On s'accorde pendant 5 ou 6 minutes, qui furent pour moi 5 ou 6 siècles. Enfin, tout étant prêt, je frappe avec un beau rouleau de papier sur mon pupitre magistral les 5 ou 6 coups du « Prenez garde à vous ». On fait silence, je me mets gravement à battre la mesure, on commence. Non, depuis qu'il existe des opéras français, de la vie, on ouït un semblable charivari. Quoi qu'on eût pu penser de mon prétendu talent, l'effet fut pire que tout ce qu'on semblait attendre. Les musiciens étouffaient de rire, les auditeurs ouvraient de grands yeux et auraient bien voulu fermer les oreilles, mais il n'y avait pas moyen. Mes bourreaux de symphonistes qui voulaient s'égayer raclaient à percer le tympan d'un 15-20. J'eus la constance d'aller toujours mon train, suant, il est vrai, à grosses gouttes, mais retenu par la honte, n'osant m'enfuir et tout planter là. Pour ma consolation, j'entendais autour de moi les assistants se dire à l'oreille, ou plutôt à la mienne, « L'un, il n'y a rien là de supportable. » Un autre, « Quelle musique enragée !» Un autre, « Quel diable de sabbat !» Pauvre Jean-Jacques, dans ce cruel moment, tu n'espérais guère qu'un jour, devant le roi de France et toute sa cour, tes sons exciteraient des murmures de surprise et d'applaudissements, et que dans toutes les loges autour de toi, les plus aimables femmes se diraient à demi-voix « Quels sons charmants! Quelle musique enchanteresse! Tous ces chants-là vont au cœur !» Mais ce qui mit tout le monde de bonne humeur fut le menuet. À peine en eut-on joué quelques mesures que j'entendis partir de toutes parts les éclats de rire. Chacun me félicitait sur mon joli goût de chant. On m'assurait que ce menuet ferait parler de moi et que je méritais d'être chanté partout. Je n'ai pas besoin de dépeindre mon angoisse, ni d'avouer que je la méritais bien. Le lendemain, l'un de mes symphonistes, appelé Luthold, vint me voir et fut assez bonhomme pour ne pas me féliciter sur mon succès. Le profond sentiment de ma sottise, la honte, le regret, le désespoir de l'état où j'étais réduit, l'impossibilité de tenir mon cœur fermé dans ces grandes peines, me firent ouvrir à lui. Je lâchai la bonde à mes larmes, et, au lieu de me contenter de lui avouer mon ignorance, je lui dis tout en lui demandant le secret qu'il me promit et qu'il me garda comme on peut le croire. Dès le même soir, tout Lausanne sut qui j'étais, et, ce qui est remarquable, personne ne m'en fit semblant, pas même le bon Perrotet, qui, pour tout cela, ne se rebuta pas de me loger et de me nourrir. Je vivais, mais bien tristement. Les suites d'un pareil début ne firent pas pour moi de Lausanne un séjour fort agréable. Les écoliers ne se présentaient pas en foule, pas une seule écolière et personne de la ville. J'eus en tout 2 ou 3 gros touchs, aussi stupides que j'étais ignorant, qui m'ennuyaient à mourir, et qui, dans mes mains, ne devinrent pas de grands croque-notes. Je fus appelé dans une seule maison, où un petit serpent de fille se donna le plaisir de me montrer beaucoup de musique dont je ne pus pas lire une note, et qu'elle eut la malice de chanter ensuite devant monsieur le maître, pour lui montrer comment cela s'exécutait. J'étais si peu en état de lire un air de première vue que, dans le brillant concert dont j'ai parlé, il ne me fut pas possible de suivre un moment l'exécution pour savoir si l'on jouait bien ce que j'avais sous les yeux et que j'avais composé moi-même. Au milieu de tant d'humiliation, j'avais des consolations très douces dans les nouvelles que je recevais de temps en temps des deux charmantes amies. J'ai toujours trouvé dans le sexe une grande vertu consolatrice, et rien n'adoucit plus mes afflictions dans mes disgrâces que de sentir qu'une personne aimable y prend intérêt. Cette correspondance cessa pourtant bientôt après et ne fut jamais renouée, mais ce fut ma faute. En changeant de lieu, je négligeais de leur donner mon adresse et, forcé par la nécessité de songer continuellement à moi-même, je les oubliais bientôt entièrement. Il y a longtemps que je n'ai parlé de ma pauvre maman, mais si l'on croit que je l'oubliais aussi, l'on se trompe fort. Je ne cessais de penser à elle et de désirer de la retrouver. Non seulement pour le besoin de ma subsistance, mais bien plus pour le besoin de mon cœur. Mon attachement pour elle, quelque vif, quelque tendre qu'il fût, ne m'empêchait pas d'en aimer d'autres, mais ce n'était pas de la même façon. Toutes devaient également ma tendresse à leur charme, mais elle tenait uniquement à ceux des autres et ne leur eût pas survécu. Au lieu que maman pouvait devenir vieille et laide sans que je l'aimasse moins tendrement, mon cœur avait pleinement transmis à sa personne l'hommage qu'il fit d'abord à sa beauté. Et quelque changement qu'elle éprouva, pourvu que ce fût toujours elle, mes sentiments ne pouvaient changer. Je sais bien que je lui devais de la reconnaissance, mais en vérité, je n'y songeais pas. Quoi qu'elle eût fait ou n'eût pas fait pour moi, c'eût été toujours la même chose. Je ne l'aimais ni par devoir, ni par intérêt, ni par convenance. Je l'aimais parce que j'étais né pour l'aimer. Quand je devenais amoureux de quelque autre, cela faisait distraction, je l'avoue, et je pensais moins souvent à elle. Mais j'y pensais, avec le même plaisir, et jamais. Amoureux ou non, je ne me suis occupé d'elle sans sentir qu'il ne pouvait y avoir pour moi de vrai bonheur dans la vie tant que j'en serais séparé. N'ayant point de ses nouvelles depuis si longtemps, je ne crus jamais que je l'eusse tout à fait perdue, ni qu'elle eût pu m'oublier. Je me disais, elle saura tôt ou tard que je suis errant et me donnera quelques signes de vie. Je la retrouverai, j'en suis certain. En attendant, c'était une douceur pour moi d'habiter son pays, de passer dans les rues où elle avait passé, devant les maisons où elle avait demeuré. Et le tout par conjecture, car une de mes ineptes bizarreries était de n'oser m'informer d'elle, ni prononcer son nom, sans la plus absolue nécessité. Il me semblait qu'en la nommant, je disais tout ce qu'elle m'inspirait, que ma bouche révélait le secret de mon cœur, que je la compromettais en quelque sorte. Je crois même qu'il se mêlait à cela quelque frayeur qu'on ne me dit du mal d'elle. On avait beaucoup parlé de sa démarche et un peu de sa conduite. De peur qu'on n'en dît pas ce que je voulais entendre, j'aimais mieux qu'on n'en parlât point du tout. Comme mes écoliers ne m'occupaient pas beaucoup et que sa ville natale n'était qu'à 4 lieues de Lausanne, j'y fis une promenade de 2 ou 3 jours, durant lesquels la plus douce émotion ne me quitta point. L'aspect du lac de Genève et de ses admirables côtes eut toujours à mes yeux un attrait particulier que je ne saurais expliquer, et qui ne tient pas seulement à la beauté du spectacle, mais à je ne sais quoi de plus intéressant qui m'affecte et m'attendrit. Toutes les fois que j'approche du pays de Vaud, j'éprouve une impression composée du souvenir de Madame de Varens, qui y est née, de mon père, qui y vivait, de Mademoiselle de Vulson, qui y eut les prémices de mon cœur, de plusieurs voyages de plaisir que j'y fis dans mon enfance, et, ce me semble, de quelque autre cause encore plus secrète et plus forte que tout cela. quand l'ardent désir de cette vie heureuse et douce qui me fuit et pour laquelle j'étais née vient enflammer mon imagination, c'est toujours au pays de Vaud, près du lac, dans des campagnes charmantes, qu'elle se fixe. Il me faut absolument un verger au bord de ce lac, et non pas d'un autre. Il me faut un ami sûr, une femme aimable, une vache et un petit bateau. Je ne jouirai d'un bonheur parfait sur la terre que quand j'aurai tout cela. Je ris de la simplicité avec laquelle je suis allée plusieurs fois dans ce pays-là, uniquement pour y chercher ce bonheur imaginaire. J'étais toujours surpris d'y trouver les habitants, surtout les femmes, d'un tout autre caractère que celui que j'y cherchais. Combien cela me semblait disparate. Le pays et le peuple dont il est couvert ne m'ont jamais paru fait l'un pour l'autre. Dans ce voyage de Vevey, je me livrais, en suivant ce beau rivage, à la plus douce mélancolie. Mon cœur s'élançait avec ardeur à mille félicités innocentes. Je m'attendrissais, je soupirais et pleurais comme un enfant. Combien de fois, m'arrêtant pour pleurer à mon aise, assis sur une grosse pierre, je me suis amusée à voir tomber mes larmes dans l'eau. J'allais à Vevey loger à la clé, et pendant 2 jours que j'y restais, sans voir personne, je pris pour cette ville un amour qui m'a suivi dans tous mes voyages et qui m'y a fait établir enfin les héros de mon roman. Je dirais volontiers à ceux qui ont du goût et qui sont sensibles, allez à Vevey, visitez le pays, examinez les sites, promenez-vous sur le lac, et dites si la nature n'a pas fait ce beau pays pour une Julie, pour une Claire et pour un saint Preux. Mais ne les y cherchez pas. Je reviens à mon histoire. Comme j'étais catholique et que je me donnais pour telle, je suivais sans mystère et sans scrupule le culte que j'avais embrassé. Les dimanches, quand il faisait beau, j'allais à la messe à Assan, à 2 lieues de Lausanne. Je faisais ordinairement cette course avec d'autres catholiques, surtout avec un brodeur parisien dont j'ai oublié le nom. Ce n'était pas un parisien comme moi, c'était un vrai parisien de Paris, un archi-parisien du bon Dieu, bonhomme comme un champenois. Il aimait si fort son pays qu'il ne voulut jamais douter que j'en fusse, de peur de perdre cette occasion d'en parler. Monsieur de Crouzat, lieutenant Baillival, avait un jardinier de Paris aussi, mais moins complaisant, et qui trouvait la gloire de son pays compromise à ce qu'on osa se donner pour en être lorsqu'on n'avait pas cet honneur. Il me questionnait de l'air d'un homme sûr de me prendre en faute, et puis souriait malignement. Il me demanda une fois ce qu'il y avait de remarquable au marché neuf. Je bâtis la campagne, comme on peut croire. Après avoir passé 20 ans à Paris, je dois à présent connaître cette ville. Cependant, si l'on me faisait aujourd'hui pareille question, je ne serais pas moins embarrassé d'y répondre. Et de cet embarras, on pourrait aussi bien conclure que je n'ai jamais été à Paris. Tant, lors même qu'on rencontre la vérité, l'on est sujet à se fonder sur des principes trompeurs. Je ne saurais dire exactement combien de temps je demeurai à Lausanne. Je n'apportais pas de cette ville des souvenirs bien rappelants. Je sais seulement que, n'y trouvant pas à vivre, j'allais de là à Neuchâtel et que j'y passais l'hiver. Je réussis mieux dans cette dernière ville. J'y eus des écoliers et j'y gagnai de quoi m'acquitter avec mon bon ami Perrotet qui m'avait fidèlement envoyé mon petit bagage, quoique je lui redusse assez d'argent. J'apprenais insensiblement la musique en l'enseignant. Ma vie était assez douce. Un homme raisonnable eût pu s'en contenter. Mais mon cœur inquiet me demandait autre chose. Les dimanches et les jours où j'étais libre, j'allais courir les campagnes et les bois des environs, toujours errant, rêvant, soupirant, et quand j'étais une fois sortie de la ville, je n'y rentrais plus que le soir. Un jour, étant à Boudry, j'entrai pour dîner dans un cabaret. J'y vis un homme à grande barbe, avec un habit violet à la grecque, un bonnet fourré, l'équipage et l'air assez noble, et qui souvent avait peine à se faire entendre, ne parlant qu'un jargon presque indéchiffrable, mais plus ressemblant à l'italien qu'à nulle autre langue. J'entendais presque tout ce qu'il disait, et j'étais le seul. Il ne pouvait s'énoncer que par signes avec l'hôte et les gens du pays. Je lui dis quelques mots en italien, qu'il entendit parfaitement. Il se leva et vint m'embrasser avec transport. La liaison fut bientôt faite, et dès ce moment, je lui servis de truchement. Son dîner était bon, le mien était moins que médiocre, il m'invita de prendre part au sien. Je fis peu de façon. En buvant et baragouinant, nous achevâmes de nous familiariser, et dès la fin du repas, nous devînmes inséparables. Il me conta qu'il était prélat grec et archimandrite de Jérusalem, qu'il était chargé de faire une quête en Europe pour le rétablissement du Saint-Sépulcre. Il me montra de belles patentes de la tsarine et de l'empereur, il en avait de beaucoup d'autres souverains. Il était assez content de ce qu'il avait amassé jusqu'alors. Mais il avait eu des peines incroyables en Allemagne, n'entendant pas un mot d'allemand, de latin ni de français, et réduit à son grec, au turc et à la langue franque pour toute ressource, ce qui ne lui en procurait pas beaucoup dans le pays où il s'était enfourné. Il me proposa de l'accompagner pour lui servir de secrétaire et d'interprète. Malgré mon petit habit violet, nouvellement acheté, et qui ne cadrait pas mal avec mon nouveau poste, j'avais l'air si peu étoffé qu'il ne me crut pas difficile à gagner. Et il ne se trompa point. Notre accord fut bientôt fait. Je ne demandais rien, et il me promettait beaucoup. Sans caution, sans sûreté, sans connaissance, je me livre à sa conduite, et dès le lendemain, me voilà parti pour Jérusalem. Nous commençâmes notre tournée par le canton de Fribourg, où il ne fit pas grand-chose. La dignité épiscopale ne permettait pas de faire le mendiant et de quêter aux particuliers. Mais nous présentâmes sa commission au Sénat, qui lui donna une petite somme. De là, nous fûmes à Berne. Nous logeâmes au Faucon, bonne auberge alors, où l'on trouvait bonne compagnie. La table était nombreuse et bien servie. Il y avait longtemps que je faisais mauvaise chère. J'avais grand besoin de me refaire. J'en avais l'occasion, et j'en profitais. Monseigneur l'archimandrite était lui-même un homme de bonne compagnie, aimant assez à tenir table, gai, parlant bien pour ce qu'il entendait, ne manquant pas de certaines connaissances, et plaçant son érudition grecque avec assez d'agrément. Un jour, cassant au dessert des noisettes, il se coupa le doigt fort avant, et comme le sang sortait avec abondance, il montra son doigt à la compagnie et dit en riant « Mirate, signori, questo è sangue pelasgo !» À Berne, mes fonctions ne lui furent pas inutiles, et je ne mentirai pas aussi mal que j'avais craint. J'étais bien plus hardi et mieux parlant que je n'aurais été pour moi-même. Les choses ne se passèrent pas aussi simplement qu'à Fribourg. Il fallut de longues et fréquentes conférences avec les premiers de l'État, et l'examen de ces titres ne fut pas l'affaire d'un jour. Enfin, tout étant en règle, il fut admis à l'audience du Sénat. J'entrai avec lui comme son interprète, et l'on me dit de parler. Je ne m'attendais à rien moins, et il ne m'était pas venu dans l'esprit qu'après avoir longtemps conféré avec les membres, il fallut s'adresser au corps comme si rien n'eût été dit. Qu'on juge de mon embarras. Pour un homme aussi honteux, parler non seulement en public, mais devant le Sénat de Berne, et parler impromptu, sans avoir une seule minute pour me préparer, il y avait là de quoi m'anéantir. Je ne fus pas même intimidé. j'exposai succinctement et nettement la commission de l'archimandrite. Je louai la piété des princes qui avaient contribué à la collecte qu'il était venu faire. Piquant d'émulation celle de leurs excellences, je dis qu'il n'y avait pas moins à espérer de leur munificence accoutumée. Et puis, tâchant de prouver que cette bonne œuvre en était également une pour tous les chrétiens sans distinction de secte, je finis par promettre les bénédictions du ciel à ceux qui voudraient y prendre part. Je ne dirai pas que mon discours fit effet, mais il est sûr qu'il fut goûté, et qu'au sortir de l'audience, l'archimandrite reçut un présent fort honnête, et de plus, sur l'esprit de son secrétaire, des compliments dont j'eus l'agréable emploi d'être le truchement, mais que je n'osais lui rendre à la lettre. Voilà la seule fois de ma vie que j'ai parlé en public et devant un souverain, et la seule fois aussi peut-être que j'ai parlé hardiment et bien. Quelle différence dans les dispositions du même homme ! Il y a 3 ans, qu'étant allé voir à Yverdun mon vieux ami M. Roguin, je reçus une députation pour me remercier de quelques livres que j'avais donnés à la bibliothèque de cette ville. Les Suisses sont grands harangueurs. Ces messieurs me haranguèrent. Je me crus obligé de répondre, mais je m'embarrassais tellement dans ma réponse et ma tête se brouilla si bien que je restai court et me fis moquer de moi. Quoique timide naturellement, j'ai été hardi quelquefois dans ma jeunesse. Jamais dans mon âge avancé. Plus j'ai vu le monde, moins j'ai pu me faire à son ton. Partis de Berne, nous allâmes à Soleur, car le dessein de l'archimandrite était de reprendre la route d'Allemagne et de s'en retourner par la Hongrie ou par la Pologne, ce qui faisait une route immense. Mais comme chemin faisant, sa bourse s'emplissait plus qu'elle ne se vidait, il craignait peu les détours. Pour moi, qui me plaisais presque autant à cheval qu'à pied, je n'aurais pas mieux demandé que de voyager ainsi toute ma vie. Mais il était écrit que je n'irais pas si loin. La première chose que nous fîmes arrivant à Soleure fut d'aller saluer monsieur l'ambassadeur de France. Malheureusement pour mon évêque, cet ambassadeur était le marquis de Bonnac, qui avait été ambassadeur à la porte et qui devait être au fait de tout ce qui regardait le Saint-Sépulcre. L'archimandrite eut une audience d'un quart d'heure, où je ne fus pas admis, parce que monsieur l'ambassadeur entendait la langue franque et parlait l'italien, du moins aussi bien que moi. À la sortie de mon grec, je voulus le suivre. On me retint. Ce fut mon tour. M'étant donné pour parisien, j'étais comme tel sous la juridiction de son excellence. Elle me demanda qui j'étais, m'exhorta de lui dire la vérité. Je le lui promis en lui demandant une audience particulière qui me fut accordée. Monsieur l'ambassadeur m'emmena dans son cabinet dont il ferma sur nous la porte. Et là, me jetant à ses pieds, je lui tins parole. Je n'aurais pas moins dit quand je n'aurais rien promis. Car un continuel besoin d'épanchement met à tout moment mon cœur sur mes lèvres. Et après m'être ouvert sans réserve au musicien Luthold, je n'avais garde de faire le mystérieux avec le marquis de Bonnac. Il fut si content de ma petite histoire et de l'effusion de mon cœur, avec laquelle il vit que je l'avais conté, qu'il me prit par la main, entra chez madame l'ambassadrice et me présenta à elle en lui faisant un abrégé de mon récit. Madame de Bonnac m'accueillit avec bonté et dit qu'il ne fallait pas me laisser aller avec ce moine grec. Il fut résolu que je resterais à l'hôtel en attendant qu'on vît ce qu'on pourrait faire de moi. Je voulus aller faire mes adieux à mon pauvre archimandrite pour lequel j'avais conçu de l'attachement. On ne me le permit pas. On envoya lui signifier mes arrêts et un quart d'heure après, je vis arriver mon petit sac. Monsieur de la Martinière, secrétaire d'ambassade, fut en quelque façon chargé de moi. En me conduisant dans la chambre qui m'était destinée, il me dit « Cette chambre a été occupée sous le comte du Luc par un homme célèbre du même nom que vous. Il ne tient qu'à vous de le remplacer de toute manière et de faire dire un jour « Rousseau premier, Rousseau second ». Cette conformité, qu'alors je n'espérais guère, eût moins flatté mes désirs si j'avais pu prévoir à quel prix je l'achèterais un jour. Ce que m'avait dit monsieur de Lamartinière me donna de la curiosité. Je lus les ouvrages de celui dont j'occupais la chambre, et, sur le compliment qu'on m'avait fait, croyant avoir du goût pour la poésie, je fis pour mon coup d'essai une cantate à la louange de madame de Bonnac. Ce goût ne se soutint pas. J'ai fait de temps en temps de médiocres vers. C'est un exercice assez bon pour se rompre aux inversions élégantes et apprendre à mieux écrire en prose. Mais je n'ai jamais trouvé dans la poésie française assez d'attrait pour m'y livrer tout à fait. Monsieur de Lamartinière voulut voir de mon style et me demanda par écrit le même détail que j'avais fait à monsieur l'ambassadeur. Je lui écrivis une longue lettre que j'apprends avoir été conservée par monsieur de Marianne, qui était attaché depuis longtemps au marquis de Bonnac et qui depuis a succédé à monsieur de Lamartinière sous l'ambassade de monsieur de Courteil. J'ai prié monsieur de Malesherbe de tâcher de me procurer une copie de cette lettre. Si je puis la voir, par lui ou par d'autres, on la trouvera dans le recueil qui doit accompagner mes confessions. L'expérience que je commençais d'avoir modérait peu à peu mes projets romanesques. Et, par exemple, non seulement je ne devins point amoureux de madame de Bonnac, mais je sentis d'abord que je ne pouvais faire un grand chemin dans la maison de son mari. Monsieur de Lamartinière en place, et monsieur de Marianne, pour ainsi dire, en survivance, ne me laissaient espérer pour toute fortune qu'un emploi de sous-secrétaire qui ne me tentait pas infiniment. Cela fit que, quand on me consulta sur ce que je voulais faire, je marquais beaucoup d'envie d'aller à Paris. Monsieur l'ambassadeur goûta cette idée, qui tendait au moins à le débarrasser de moi. Monsieur de Merveilleux, secrétaire interprète de l'ambassade, dit que son ami Monsieur Godard, colonel suisse au service de France, cherchait quelqu'un pour mettre auprès de son neveu, qui entrait fort jeune au service, et pensa que je pourrais lui convenir. Sur cette idée, assez légèrement prise, mon départ fut résolu. Et moi, qui voulais un voyage à faire et Paris au bout, j'en fus dans la joie de mon cœur. On me donna quelques lettres, 100 francs pour mon voyage, accompagné de force bonnes leçons, et je partis. Je mis à ce voyage une 15aine de jours, que je peux compter parmi les plus heureux de ma vie. J'étais jeune, je me portais bien, j'avais assez d'argent, beaucoup d'espérance, je voyageais à pied et je voyageais seul. On serait étonné de me voir compter un pareil avantage si déjà l'on avait dû se familiariser avec mon humeur. Mes douces chimères me tenaient compagnie et jamais la chaleur de mon imagination n'en enfanta de plus magnifique. Quand on m'offrait quelques places vides dans une voiture ou que quelqu'un m'accostait en route, je rechignais de voir renverser la fortune dont je bâtissais l'édifice en marchant. Cette fois, mes idées étaient martiales. J'allais m'attacher à un militaire et devenir militaire moi-même, car on avait arrangé que je commencerais par être cadet. Je croyais déjà me voir en habit d'officier avec un beau plumet blanc. Mon cœur s'enflait à cette noble idée. J'avais quelques teintures de géométrie et de fortification. J'avais un oncle ingénieur. J'étais en quelque sorte enfant de la balle. Ma vie courte offrait un peu d'obstacles, mais qui ne m'embarrassaient pas. Et je comptais bien, à force de sang-froid et d'intrépidité, suppléer à ce défaut. J'avais lu que le maréchal Schönberg avait la vue très courte. Pourquoi le maréchal Rousseau ne l'aurait-il pas? Je m'échauffais tellement sur ces folies que je ne voyais plus que troupes, remparts, gabions, batteries, et moi, au milieu du feu et de la fumée, donnant tranquillement mes ordres, la lorgnette à la main. Cependant, quand je passais dans des campagnes agréables, que je voyais des bocages et des ruisseaux, ce touchant aspect me faisait soupirer de regret. Je sentais au milieu de ma gloire que mon cœur n'était pas fait pour tant de fracas. Et bientôt, sans savoir comment, je me retrouvais au milieu de mes chères bergeries, renonçant pour jamais aux travaux de Mars.